Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Là, on peut se laver les mains, pas trop tout de même, il reste Mickey Arguité.
Le bourreau sanguinaire, le bourreau est là, et je vais vous torturer.
Au sommaire aujourd'hui, la première émission d'une série de 3 pour honorer la sortie du volume 4 de l'intégrale augmentée de Midi Minuit Fantastique paru chez Rouge Profond. Cette émission est introduite par des captations sonores réalisées par Erwan Legac ainsi que Daniel Gouillette, que nous remercions. L'équipe des films de la Gorgone tient à remercier tout particulièrement Guy Astic pour son aide sur cette émission. Durant cette émission consacrée à Midi Minuit Fantastique, l'intégrale volume 4, donc paru chez Rouge Profond, nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Nicolas Stenzik, qui est l'auteur de cette intégrale. Nicolas Stenzik, que je vous invite de suite à retrouver à notre micro. Donc tout de suite, Nicolas Stenzik au micro de Culture Prohibée. Bonjour Nicolas Stenzik.
Bonjour.
Tu es avec nous aujourd'hui pour aborder le Midi Minuit Fantastique, l'intégrale augmentée, hein, donc le volume 4. Le volume 4 qui vient enfin de paraître. Je rappelle très brièvement Midi Minuit Fantastique, on en a beaucoup parlé dans notre émission depuis le lancement de ton projet. On a même organisé quelques petits événements autour de cette parution d'intégrale augmentée. C'est une revue mythique, revue française, hein, parue dans les années 60. Revue française parmi les premières au monde à aborder le fantastique avec sérieux, avec un appareil critique très conséquent, beaucoup d'entretiens, enfin voilà, une revue qui a considérablement marqué les cinéphiles dont je fais partie puisque je collectionnais cette revue. Et évidemment, dès que l'intégrale est arrivée, je me suis jeté dessus à l'époque. Et aujourd'hui, je regarde en arrière un peu et je vois cette intégrale dans laquelle tu as republié tous les numéros, dont certains Graal, mais on en reparlera après. Et je me rends compte que tout cela a démarré en 2011 avec un éditeur un peu dingue quand même, Guy Astic, qui t'a suivi dans ce projet un peu fou. Quel regard tu portes maintenant sur cette aventure qui arrive entre guillemets à son terme, voilà.
Très honnêtement, jamais je n'aurais imaginé en 2011 qu'on allait mettre 10 ans, c'est-à-dire à peu près autant de temps que la revue a mis de temps à exister, à naître, à se développer, à vivre et à mourir. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on passe autant de temps que ça sur un projet de cette nature. Moi, initialement, je m'étais dit, on va faire ça en 3 tomes, un tome par an. On est en 2011, allez, le premier, je le sors en 2012, et puis en 2015, c'est fini, quoi, voilà. Eh bien, pas du tout. 10 ans, ça a été, comment dire, une vraie tranche de vie, tout simplement. Il s'est passé des tas de choses en 10 ans. Il y a eu énormément de rencontres, des amitiés qui sont créées. Il y a eu aussi des disparitions en 10 ans. En fait, oui, le regard rétrospectif que j'ai sur tout ça, c'est d'abord, finalement, beaucoup d'émotions, tout simplement, parce que... ça n'a pas été facile d'arriver au bout. Ça a été vraiment un long chemin. Il y a eu des moments parfois très difficiles. Il y a eu des grands moments de joie aussi, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment d'abord et avant tout une tranche de vie.
Et c'est aussi un travail avec un homme de l'ombre qu'on cite que très rarement, mais qui a une grande part aussi dans cette aventure, c'est Erwan Le Gac.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, il y a une équipe autour de Midi Minute Fantastique, cette réédition. Il y a eu d'abord la rencontre avec Erwan Le Gac, parce que il m'a soutenu avec sa boîte de prod à l'époque, Soft Prod, lorsqu'on a ressorti Les Griffes de la Hammer en 2010. J'avais trouvé un éditeur qui s'appelait Le Bordelot, mais qui était un peu fébrile financièrement parce qu'il s'agissait d'une réédition. J'avais sorti une première fois le livre en 2008 et donc il cherchait un co-investisseur et j'avais proposé à Erwan de co-investir via sa boîte, donc Soft Prod. C'est comme ça que Les Griffes de la Hammer sont ressortis. Le projet Midi Minuit, finalement, il est né précisément dans le sillage de cette ressortie des Griffes de la Hammer. Hein. C'était au cours d'une exposition dédiée à la Hammer à Paris, à la médiathèque Marguerite Duras, un soir de vernissage où Michel Camp m'avait fait le plaisir de venir, que l'idée nous est venue. On avait constaté que les jeunes gens qui étaient là, parce que la moyenne d'âge était plutôt 30 ans, ce qui était assez extraordinaire pour des films datant d'un peu plus de 50 ans, on avait constaté que les jeunes cinéphiles qui étaient là étaient à la limite plus fascinés par les agrandissements de couverture de Midi Minuit que par les photos elles-mêmes de la Hammer. Et c'est comme si on avait eu une manifestation grandeur de la permanence des mythes. Ce thème cher à Jean Boulet, qui était le thème de l'édito du numéro 1 en 1962. De toute évidence, même s'il n'avait jamais entendu parler de Midi Minuit Fantastique, eh bien, la revue était mythique et une part de ce mythe s'imposait à eux dans leur regard fasciné. J'avais dit du tac au tac à Michel Camp, pourquoi pas imaginer quelque chose? Pourquoi pas imaginer un projet éditorial? Pourquoi pas un livre? Ou une collection de livres, pourquoi pas une compilation des meilleurs articles, pourquoi pas une intégrale, pourquoi pas une intégrale augmentée avec des DVD. Enfin, c'est parti un petit peu dans tous les sens comme ça. Et lui, très rapidement, m'avait répondu « déjeunons la semaine prochaine ». Et ça avait été lancé comme ça. Je me suis lancé dans la quête d'un éditeur. J'ai essuyé 3-4 refus. Donc d'abord le Bordelot qui voyait pas le... Enfin, pour eux, c'était un projet beaucoup trop pharaonique. Et j'ai envoyé un mail à Guy Astic et je me souviens que Illico, il m'a répondu par retour de mail, formidable projet, des livres, une restauration, des DVD, il faut absolument qu'on en parle. Je l'ai appelé, on a dû parler 1h15 ou 1h30 au téléphone, il était très très enthousiaste et ça a été lancé directement comme ça. Et donc, dès la signature des contrats, ça c'était début 2012, grosso modo, dès la signature des contrats, il a été acté que Softprod et Erwan s'occuperaient des DVD et que Rouge Profond éditerait les livres. Voilà comment s'est montée l'équipe et ça a tenu jusqu'au bout.
C'est un sacré travail pour un éditeur, parce qu'on parle rarement du travail des éditeurs, mais là, il y a cette édition, enfin cette intégrale est une intégrale augmentée. Et justement, en quoi ça consiste de faire une intégrale augmentée aussi bien pour toi que l'éditeur?
Alors, cette histoire d'intégrale augmentée, c'est pas du tout quelque chose qu'on a théorisé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est né très très spontanément devant l'évidence de ce qu'on était en train de faire. Je suis tombé complètement par hasard là, il y a pas longtemps, sur un papier universitaire qui analysait très doctement ce qu'on a fait justement avec Guy Astic sur ce projet d'intégrale, sur notre rapport. Justement, comment rééditer une revue de cinéma, comment l'entourer d'un appareil critique, etc. Enfin, bref, tout ce qu'on a fait depuis 10 ans. Alors, l'article était passionnant, j'étais très flatté de lire cet article, mais en même temps, je dois admettre que, encore une fois, tout ça était très, très spontané de notre part. Hein. Moi, ça a été évident dès le début que reproduire Midi Minuit Fantastique sous forme de fac-similé dans les années 2010, ça n'avait pas de sens en tant que tel. Moi déjà, je pouvais pas me positionner en tant qu'auteur ou en tant qu'historien par rapport à un truc comme ça. Ça aurait juste été remettre sur le marché des numéros tels qu'ils étaient en fac-similé. Ça aurait été ça un peu l'idée si on avait fait ça. Moi, faire les choses de cette manière-là, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'être dans la suite de ce que j'avais fait avec les Griffes de la Hammer. Donc, c'était de prendre ma casquette d'historien et donc de redonner à comprendre ce qu'était Midi Minuit Fantastique dans les années 60. Et la première chose pour ça, c'était de reproduire le choc esthétique qui avait été celui de la découverte de Midi Minuit dans les années 60. Et pour reproduire ce choc vis-à-vis d'un lectorat, donc dans les années 2010, eh bien, on ne pouvait pas du tout faire un fac-similé. Au contraire, il fallait dépoussiérer la revue, si je puis dire, et donc revenir à la source, retrouver les photos qui avaient été publiées à l'époque pour pouvoir les reproduire avec la qualité optimum offerte par les moyens techniques actuels, c'est-à-dire vraiment des scans haute définition, numériques, pouvoir retoucher les photos au mieux pour les adapter au mieux au format des pages. Voilà, ça c'était la première idée.
Of time, my heart and écoutez Culture Prohibée spécial Midi Minuit Fantastique, l'intégrale, volume 4, paru chez Rouge Profond.
Dès qu'on a ouvert la boîte de Pandore, en fait, dès qu'on s'est intéressé à ces questions des photos, il a paru absolument évident qu'il fallait faire le même travail sur les textes, c'est-à-dire qu'il fallait les ressaisir, ne serait-ce que pour pouvoir réhomogénéiser un certain nombre de choses, c'est-à-dire par exemple sur les titres de films, sur un certain nombre de questions typographiques, tout bêtement, hein, voilà ce qu'on fait dans n'importe quelle revue, dans n'importe quel livre. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai fini par comprendre que j'allais faire un Midi Minuit en pièces détachées, c'est-à-dire que j'allais retrouver toutes les photos, j'allais ressaisir tous les textes et les retravailler au mieux sur le plan de la typographie pour que ça puisse donner des vrais livres, voilà, avec une vraie cohérence d'un bout à l'autre. Mais de la même manière, il fallait que je restaure tous les éléments graphiques de la revue d'époque, donc les titres d'articles, parce qu'il y avait toujours ces espèces de typos qui font le style de Midi Minuit. Il fallait que je restaure les couvertures, que je restaure les sommaires, que je restaure les pavés de presse qu'on pouvait retrouver au fil des articles. Et mon boulot, dès lors, consistait à envoyer à Guillastic Midi Minuit en pièces détachées avec un vaste chemin de fer qui allait couler comme ça sur quelques 700 pages. Mais dès lors qu'on acceptait l'idée qu'on était en train de restaurer Midi Minuit, rien ne nous interdisait d'aller plus loin. Et donc, depuis le début, de toute façon, moi, j'avais imaginé écrire un certain nombre de textes pour accompagner les numéros de la revue, pour les remettre en lumière, pour avoir un regard réflexif, un regard historique là-dessus, pour tout simplement permettre à un jeune lectorat des années 2010 de comprendre ce qu'était Midi Minuit. Donc, il fallait faire cet appareillage critique. Mais en même temps, on a ouvert aussi une boîte à fantasmes, c'est-à-dire qu'on s'est dit, mais pourquoi pas. Il y avait une dimension ludique très forte dans Midi Minuit, qui était assez incarnée notamment par Jean-Claude Remer, qui faisait les mots croisés Midi Minuit, qui avait inventé ces rubriques l'horoscope ou au tableau d'horreur, ce genre de choses. Et on s'est dit avec Michel Camp, pourquoi pas pousser un petit peu cette logique-là et pourquoi pas faire un chapitre central qui s'appellerait l'entracte, en référence au fameux entracte de la salle de Midi Minuit où il y avait un striptease à l'entracte entre les films. Et on s'est dit, mais pourquoi pas composer une sorte de numéro inédit de Midi Minuit par volume, avec des textes d'époque qu'on aurait retrouvés et des textes d'aujourd'hui qu'on écrirait. Michel Camp tout de suite s'est mis en tête d'écrire un article érotomane par volume, qui serait Midi Minuit, Mrs., donc à chaque fois une ode à une star de Midi Minuit dont on aurait retrouvé des photos dénudées, voilà. Et puis moi, je m'étais mis en tête de faire une rubrique qui s'appellerait Flashback, qui était un retour sur tel ou tel film lié à Midi Minuit, notamment un court-métrage, donc ça allait accompagner forcément les DVD. Dans le premier volume, c'était Fantasmagorie, dans le deuxième volume, c'était Le Dracula en ombre chinoise. Et puis, il y avait aussi l'idée de retrouver des interviews. Dans le premier volume, c'était Michel Camp qui avait fait une interview avec Francis Lacassin de Fellini à propos des Fumetti. Dans le volume 2, c'était une interview inédite faite par Ornella Volta de Mario Bava. Dans le volume 3, alors là, c'était une interview que moi, j'avais faite avec Roger Corman, une longue interview carrière, alors qui datait pas du tout des années 60, et pour cause, j'étais pas né. Une interview beaucoup plus récente de 2009, mais qui revenait largement sur les films que Midi Minuit avait célébrés dans les années 60. Et donc, en gros, on a ce chapitre central qui est devenu vraiment un moment très important de chaque volume et quelque part qui a amené dans le volume 4 à l'édition de ce chapitre, alors là pour le coup totalement inédit, qui était la restauration du numéro 25-26, enfin plus qu'une restauration, c'est-à-dire la première publication du numéro 25-26 qui était resté inédit à l'époque en 1973.
Qu'est-ce que tu préfères, toi, à la limite, ou peut-être tu n'as pas de préférence, mais entre cette phase de recherche qui est une phase assez exaltante, en fin de compte, et la phase d'écriture, quand tu travailles sur une intégrale comme celle de Midi Minuit Fantastique.
Je dois avouer qu'en fait, j'ai absolument tout aimé dans cette intégrale Midi Minuit, dans sa fabrication. C'est vrai que le processus de recherche, c'est formidablement exaltant. Il y a un travail d'archéologie qui est... qui me tient en haleine, qui me donne envie de toujours trouver un élément nouveau. Il y a cette envie de ne jamais abandonner le fil d'une enquête. Et souvent, quand on n'abandonne pas, on est récompensé. Hein. Et on l'a été à plusieurs reprises dans cette histoire de l'intégrale. On l'a été ne serait-ce qu'avec Fantasmagorie, quand on a retrouvé le film grâce à la fille de Patrice Molinard, le réalisateur du film, et grâce évidemment à Éric Leroy et Laurent Bismuth que je salue ici, enfin auquel j'aimerais plus exactement rendre hommage parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, Laurent Bismuth et Éric Leroy du CNC, grâce à qui donc on a pu restaurer les négatifs des films. Donc Fantasmagorie, ça a été une première enquête couronnée de succès. Il y a eu le Dracula ombre chinoise de Jean Boulet. Ça a été aussi totalement fou. Ça a été des années de recherche pour retrouver les rushs. Et finalement, on a fini par les retrouver grâce à François Angeli et Philippe Druyer, et donc à produire le premier montage, a priori, en tout cas le premier montage rendu public, parce que les choses sont plus compliquées avec ce film. Possiblement, il existe un premier montage qui aurait totalement disparu. Nous, on a retrouvé les chutes d'un montage qu'on a monté avec Erwan Legac, et c'est ce qu'on a pu publier en 2018 avec le volume 3. Mais par exemple, si je prends vraiment cet exemple du Dracula ombre chinoise, l'enquête continue en réalité, parce que depuis qu'on a sorti le film, on a retrouvé des nouveaux éléments, j'ai retrouvé des photos. L'autre jour, au Forum des images, ça c'est extraordinaire, quelqu'un est venu me voir en me disant « j'ai quelque chose pour vous ». Et il est venu avec un dossier, il y avait tous les storyboards du Dracula ombre chinoise dessinés de la main de Jean Boulet. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Il y a toujours quelque chose qui se passe par rapport à ce film. Et il n'est pas exclu que dans les années à venir, on va retrouver de nouveaux éléments, peut-être films, peut-être qu'on va retrouver des plans inédits, peut-être que notre montage sera obsolète et qu'il faudra le refaire. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui court comme ça. Pour le volume 4, il y a eu plusieurs enquêtes. Pour le DVD, il y a eu un film qu'on a cherché pendant 10 ans, c'était La Maison du Juge, un film réalisé par Serge Fouquet, qui était un jeune réalisateur de 20 ans, totalement amateur. Et La Maison du Juge, en 1963, c'est le premier texte de Bram Stoker, autre que Dracula, qui est adapté au cinéma. La nouvelle de Bram Stoker avait été publiée dans la revue Fiction quelques mois auparavant, et ça, c'est assez extraordinaire. Il y a donc ce jeune réalisateur amateur qui va se lancer dans une adaptation avec ses amis, avec de la famille. Et c'est un film qui avait beaucoup marqué à l'époque Jean Boulet, qui l'avait passé dans son ciné-club rue Bobillot, qui l'avait passé notamment à Forrest J. Ackerman et à quelques autres. Et tous les Happy Few qui avaient pu découvrir le film à l'époque avaient été littéralement enthousiasmés par ce film très, très, très étrange. Parce que ses défauts techniques, à savoir une image très sous-exposée, une post-synchronisation très hasardeuse, finalement contribuent largement à sa beauté, à son étrangeté. C'est très difficile de savoir quelle est la nationalité de ce film. C'est très difficile même de savoir à quelle époque il a été réalisé. On pourrait croire qu'il s'agit d'un film muet qui aurait été colorisé, qui aurait été resynchronisé des années après, et cette espèce d'étrangeté, cette bizarrerie, cette insolite-là nourrit vraiment une dimension totalement cauchemardesque. En fait, je trouve le film assez effrayant et très très beau. Et donc ce film, on l'a cherché pendant 10 ans, c'était Jean-Pierre Buxou qui m'en avait mentionné l'existence, et on a tapé aux portes de toutes les cinémathèques, de tous les collectionneurs, j'ai appelé tous les Serge Fouquier de l'annuaire, et je peux dire que dans l'annuaire, il y en a des Serge Fouquier, j'ai peut-être passé 50 coups de téléphone, sans succès. Et au mois de mars-avril cette année, alors qu'on était en train de boucler le DVD de ce volume 4, là, chose extraordinaire, je vois passer une annonce dans une boutique du nord de la capitale, spécialisée dans les films, les Super 8, 16 mm, etc., qui vend également des projecteurs. Et cette annonce, c'était La Maison du Juge de Serge Fouquet. Il y avait une copie 16 à vendre. Je l'ai acheté directement pour 50 €. Je n'ai même pas regardé le film. Je l'ai fait numériser directement parce que je savais que je voulais ce film pour le DVD. Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. Ça fait partie de ces petits miracles qui ont accompagné cette intégrale pendant 10 ans. The snow on your eyelids that curtsy with age is freezing the stairs on tyranny swings. The bitter is hot and warmth of your skin is the
disease with familiar caresses. Withdrawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun blasphemes as the crown prince arises. Primroses are the jewels that lurk among masks of pleasure that flicker with doubt. And dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized.
Vous écoutez Nicolas Stenzik, auteur de Midi Minuit Fantastique l'intégrale, volume 4, paru chez Rouge Profond, au micro de Culture Prohibée.
The river shall flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Bradington Sphinx is asleep before birth. Classical sensitive failures. The worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk, the avaricious young lovers.
L'autre grosse enquête de ce volume 4, c'est bien sûr le numéro 25-26. Alors ça, ça a été une histoire aussi assez extraordinaire, parce que originellement, il n'y a pas de numéro 25-26, il y a un numéro 25. Pendant des années, ceux qui sont très au fait de l'histoire de Midi-Minuit savent qu'un numéro 25 devait sortir en 1972, tout simplement parce que Eric Losfeld, dans un catalogue du printemps 72, avait annoncé la sortie imminente d'un numéro 25 avec en couverture Christopher Lee. Les autres renseignements qu'on peut avoir par rapport à ce numéro 25, c'est la thèse de René Prédal qu'il avait consacrée à Midi-Minuit en 1977. Il reproduisait l'annonce faite par Eric Losfeld, donc cette couverture avec Christopher Lee dans Les cicatrices de Dracula. Et en annexe de cette thèse, il avait reproduit un certain nombre d'articles, 5, si je ne dis pas de bêtises, 5 articles qui étaient prévus au sommaire. Il y avait une longue étude de Francis Lacassin dédiée au mythe de Tarzan. Il y avait un article de Jean-Claude Romer dédié au tout dernier film de Boris Karloff pour lui rendre hommage. Il y avait une rubrique télé dédié à la Brigade des Maléfices, un formidable dossier sur l'hypergonard avec notamment une lettre de Claude Autant-Lara qui racontait la réalisation d'un court-métrage en 1929 qui s'appelle « Construire un feu » qui était le tout premier film tourné en hypergonard, ce qui était donc l'ancêtre du cinémascope. Hein, l'invention du professeur Chrétien qui, revendu aux États-Unis, a donc donné le cinémascope 20 ans plus tard. J'oublie un dernier article. Enfin bref, il y avait un certain nombre d'articles comme ça qui étaient reproduits. Jean-Claude Romer, dans les années 2000, il avait fait une longue interview pour un site qui s'appelle Devil Dead, où il parlait également de ce numéro 25 et il expliquait que, de toute évidence, René Prédal avait réussi à récupérer les textes du numéro 25 en allant fureter du côté des imprimeurs parce que Selon Jean-Claude, le numéro 25 avait été maquetté et Eric Losfeld avait proposé le numéro à différents imprimeurs pour avoir des devis. C'est comme ça qu'il faisait à chaque numéro. Et comme il était dans ses gros problèmes financiers, ses gros problèmes judiciaires à l'époque, puisqu'il était victime de tout un tas de procès pour censure, voilà. Eric Losfeld donc n'a pas pu sortir le numéro et le numéro se serait perdu chez les imprimeurs. Donc selon Jean-Claude, René Prédal avait réussi à récupérer les maquettes de ce numéro et aurait publié les textes comme ça. Sauf que en 2013, donc un an avant la sortie du volume 1, a lieu une soirée de teasing par rapport à cette intégrale midi-minuit au cours de laquelle Michel Caen et moi-même présentons des films. Et au moment de présenter les films, c'était au Nouveau Latina, je me souviens que Michel Caen annonce que cette intégrale en 3 volumes, à l'époque c'était censé être encore en 3 volumes, on se rendait absolument pas compte de la taille de ce qu'on était en train de faire. Michel Caen annonce, voilà, dans le dernier volume, dans le volume 3, il y aura le fameux numéro double 25-26 qui n'est pas sorti. Moi je me retourne, ah bon, numéro 25-26 ? Mais je suis pas au courant, enfin, voilà, c'est quoi cette histoire? Alors là, moi je l'interromps pas, évidemment, on est en public, mais dès qu'on boit un verre après, qu'on se retrouve à parler, à avancer sur le projet midi-minuit, je me demande, mais alors c'est quoi cette histoire numéro 25-26? Moi j'étais au courant d'un numéro 25, mais 25-26, pas du tout. Et il me dit, si, si, 25-26, en 73, on l'avait envisagé de sortir, finalement, de ressortir ce numéro, mais sous la forme d'un double, avec tout un tas d'autres articles. Il y a des articles qui sont sortis, finalement, qui ont été publiés dans Zoom, revue qu'il dirigeait à l'époque. Donc là, il me mentionne une interview de Terence Fisher, qui effectivement est sortie en avril 73 dans un numéro de Zoom. Il me mentionne une interview de Paul Morisset, qui est sortie un petit peu plus tard au cours de l'année 73 aussi. Et il me mentionne également des textes qui seraient restés inédits. Une critique de Geneviève Caen, sa femme, des diables. Deux textes de Jean-Pierre Bouxou, un consacré à Russe Meyer et un autre consacré aux fameuses poupées diaboliques de Raphaël Maronju. Raphaël Maronju, c'était un ami proche de Jean-Pierre Bouxou qui avait fait des miniatures de scènes de films, de la Hammer, de scènes de la Universal, qui ont donné lieu à des photos absolument prodigieuses, extrêmement effrayantes, enfin d'une beauté absolument sidérante, dont certaines d'ailleurs avaient été publiées en 65 dans Famous Monster of Filmland de Forrest J. Ackerman. Et donc visiblement, il y avait un dossier Art MMF, une rubrique Art MMF plus exactement, qui était prévue dans ce numéro 25-26 consacré à Raphaël Maronju. Voilà. Donc il me mentionne un certain nombre de textes comme ça. Il y en avait d'autres de Bernard Charnassé, notamment une preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, qui devait compléter l'interview de la Hammer pour constituer un grand dossier Hammer, donc dans ce numéro 25-26. Et puis une critique également, toujours de signé Bernard Charnassé, des lèvres rouges d'Harry Kummel avec Delphine Seyrig en 71. Mais ces textes, bon, moi je ne les retrouve pas. Il me mentionne un certain nombre d'autres articles qui ont pu être publiés ailleurs. Mais faut être honnête, moi à ce stade-là, j'ai quand même un doute. Michel Caen était à la fois très sérieux dans la manière d'écrire, de diriger ses revues, mais il avait aussi, par moments, peut-être quelque chose de Jean Boulet. Il était aussi d'une nature assez fantasque. Donc, est-ce qu'il n'était pas en train d'inventer, là, 40 ans après, un fantasmatique numéro 25-26 ? J'ai douté, en fait, assez longuement. Michel nous a quittés fin 2014, donc pour moi, je ne pouvais plus poser de questions après ça. La source était rompue. Enfin, la source était tarie. J'avais plus d'informations à ce niveau-là. Jean-Claude Romère, quand je lui posais la question, bah, il n'avait aucun souvenir d'un numéro 25-26. Pour lui, tout s'était arrêté en 72, voilà, avec ce projet numéro 25. It was all once bright jewels, glittering sand. The oceans have ravished and strangled the land. Waste fills the temples, dead daughters are born. The presses are empty, the editors torn.
écoutez Culture Prohibée spécial Midi Minuit Fantastique, l'intégrale, volume 4, paru chez Rouge Profond.
En 2017, si je ne dis pas de bêtises, 2017 ou 2018, dans ces eaux-là, au cours de recherches iconographiques chez Michel Caen, plus exactement chez sa femme Geneviève Caen, je finis par tomber sur un dossier, manuscrit, où il y a écrit juste MMF, et dans ce dossier, des textes, manuscrits, les fameux textes dont il m'avait parlé. Les textes de Jean-Pierre Bouixou, de Geneviève, de Bernard Charmassé. Et donc là, de toute évidence, j'ai la preuve irréfutable de ce numéro 25-26. Et j'ai même la preuve de la date, parce que c'est très simple. La preview de Frankenstein et le monstre de l'enfer, c'est forcément 1973, parce que le film a été diffusé à Paris en avril 1973. Donc on a la preuve irréfutable de texte postérieur à un numéro 25 de 1972. Donc là, je me suis mis... en tête de reconstituer le sommaire le plus exact possible de ce numéro 25-26. Donc j'ai repris tous les textes du numéro 25, j'ai repris tous ceux que m'avait mentionné Michel Caen, j'ai essayé de retrouver tous les textes aussi qui avaient été publiés dans d'autres revues dont il m'avait parlé. Et voilà, j'ai reconstitué ce sommaire sous cette forme-là. J'ai posé la question aussi à Gérard Lenne de ses critiques, parce qu'il était prévu qu'il fasse des critiques... pour ce numéro. Lui, très honnêtement, m'a avoué qu'il n'en avait finalement pas écrit. Donc on s'est mis... on a convenu de reproduire un certain nombre de textes de critiques fantastiques qu'il avait écrit à l'époque pour Télérama. Ça, il y a quand même une certaine ironie là-dedans. Parce qu'il avait fini par être le spécialiste des films fantastiques à Télérama dans les années 72, 73. Donc évidemment, on précise tout cela en introduction du volume. Hein. Je reprécise la source de tous les textes pour qu'on puisse vraiment identifier les choses. Et donc, on est arrivé à un vaste sommaire du numéro 25-26 de cette manière-là. Et à partir de là, il a fallu que je fasse toutes les recherches iconographiques parce qu'on n'avait aucun renseignement, aucune source à ce niveau-là. Et a priori, quand Jean-Claude Romer me disait que le numéro 25, lui, avait été maquetté, après enquête, a priori, pas du tout. Parce que j'ai eu, à un moment donné, René Prédal au téléphone qui m'a juste dit que les textes qu'il avait fini par reproduire dans sa thèse, eh bien, c'est tout simplement... Michel Caen, qui lui avait donné sous forme tout simplement, non pas maquetté, mais tout simplement dactylographié. Voilà. Michel Caen lui avait donné en 75, au moment où il abandonne totalement, définitivement, tout retour de Midi Minuit. Et donc, ça, pour lui, ça scellait la mort de Midi Minuit. Et quitte à ce qu'une thèse existe, autant faire vivre au moins ces textes, les quelques textes du numéro 72 sous cette forme-là. Il n'avait quand même pas donné les textes de 1973. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'il n'avait donné qu'un dossier sur les deux, ou peut-être qu'il ne voulait pas qu'on republie l'intégralité à ce moment-là du numéro. Peut-être qu'il voulait garder un espèce de mystère. Je n'ai jamais su finalement. Mais en tout cas, voilà comment on a reconstitué ce numéro 25-26 dans son intégralité.
Tu parlais à l'instant de Raphaël Maronju, hein, c'est vrai que c'est un compagnon de route de Jean-Pierre Bouixou qui est décédé il y a peu, hein, en 2021. Et dans les choses que tu as retrouvées, que tu présentes dans ce volume 4, il y a une BD un peu dingue, voilà, où on reconnaît des personnages mythiques. On reconnaît aussi un Jean-Claude Romer, lunettes noires, un peu vampirique, comme ça, dans cette BD qui s'appelle Les Rescapés du Temps.
C'est un peu une façon de boucler la boucle, peut-être aussi avec Satan bouche un coin, mais est-ce que, comment dire, quel effet ça t'a fait de retrouver cette BD? Parce qu'elle est, c'est la preuve quand même qu'à Midi Minuit Fantastique, il s'interdisait rien, quoi.
C'est comme une revue d'une liberté folle, ça c'est évident. L'histoire avec Raphaël Marangu, elle est très émouvante parce que déjà on est devenu amis assez tôt dans la confection de l'intégrale. On s'est rencontrés en 2014. Je savais qu'il avait été un collaborateur important par ses photogrammes, mais j'avais pas compris à quel point il avait été impliqué dans la revue, je veux dire émotionnellement, amicalement. Dans le volume 2, on avait sorti dans le DVD le film qu'il avait co-réalisé avec Jean-Pierre Buxou, « Ça t'embouche un coin ». Et puis, de fil en aiguille, en discutant avec lui, j'ai découvert, enfin c'est plus exactement, c'est lui qui m'en a parlé tout simplement, qu'il avait fait une bande dessinée, jamais éditée, jamais publiée, strictement pour le plaisir de la montrer à ses amis, dans laquelle il mettait en scène les midi-minuistes. Et c'est donc là, c'était la découverte d'une sorte de midi-minuisme secret, je veux dire, au-delà des films réalisés par les uns et les autres, au-delà des articles, au-delà des différentes collaborations, il y avait quelque chose, un élément underground au sein de l'underground. Enfin, il y avait quelque chose de totalement fou là-dedans. Alors moi, évidemment, je voulais absolument voir cette bande dessinée. Lui, il me l'a décrivait comme quelque chose qui donc n'était pas du tout destiné à être publié parce que c'était une sorte de galop d'essai sur lequel il essayait toutes sortes de techniques. Voilà comment il m'avait présenté les choses. Et très rapidement, je lui ai dit, mais je veux absolument voir ça. J'aimerais beaucoup que tu m'en envoies des scans, de préférence des scans haute définition, de préférence l'intégralité, parce que pour moi, c'est évident qu'il faudra publier quelque chose dans l'entracte. C'est vraiment l'endroit indiqué pour présenter un certain nombre de planches, pour expliquer ce que c'était que cette bande dessinée. Et puis il a fini par m'envoyer les 90 premières planches qui concluaient un premier cycle de cette BD, parce qu'il a fait une suite mais que je n'ai pas pu voir. Et ce que j'ai découvert était vraiment extraordinaire. C'est une bande dessinée, déjà c'est remarquablement fait, les dessins sont somptueux, le travail sur la couleur est somptueux, et puis c'était vraiment une espèce de manifeste du midi-minuisme, parce que le fait déjà de mettre en scène Jean-Claude Romer, Michel Caen, Roland Lethem, Alain Lebris, lui-même, parce qu'il se met aussi en scène là-dedans, en mêlant leurs aventures à celles de Donald Wolfe, de Barbara Steele, de Audrey Campbell, de Timothy Leary, etc. Mais des aventures délirantes, non-sensiques, psychédélique, mêlant des passages complètement gothiques. Alors on a mis un passage Hammer, c'est l'extrait qu'on présente dans le volume 4, mais il y a aussi des passages science-fictionnels délirants, il y a des passages avec des dinosaures, il y a des passages SM totalement délirants, il y a des passages psychédéliques à base d'expériences de LSD, dont on peut deviner qu'ils les ont faites les uns et les autres à ce moment-là, au même temps que les Rolling Stones et les Beatles, en gros. Non, c'était vraiment extraordinaire, cette BD. Et tout le travail avec Raphaël Marangu, je veux dire, sur cette intégrale, ça a été vraiment quelque chose d'émouvant pour moi, parce que donc, il m'a envoyé les 90 planches scannées en haute définition. On a sélectionné ensemble les planches qu'on voulait présenter dans ce volume 4. Il a écrit un très beau texte pour présenter cette BD. Et il m'a envoyé aussi tous les scans de ces fameuses poupées, les photos des poupées qu'il avait réalisées dans les années 60, tirées donc de scènes de la Hammer ou de la Universal ou des différentes choses comme ça, pour accompagner donc le texte de Jean-Pierre Buxou qui avait été à l'époque prévu pour le numéro 25-26. Et il m'a envoyé ses derniers scans, et quelques jours après, une fois qu'il avait à peu près fait tout ce qu'il devait faire pour Midi Minuit, il s'est suicidé. Voilà, donc la dernière chose qu'il a eu à cœur de faire, de finir, c'était Midi Minuit. Il était très malade, c'est pour ça qu'il s'est suicidé de toute évidence. Mais ça a été assez vertigineux pour moi de me dire que voilà, la dernière chose qu'il a eu à cœur de réaliser, ça a été sa collaboration à ce volume 4. Et je tenais évidemment à lui rendre hommage via ce volume 4. Et c'est vrai qu'il est particulièrement mis à l'honneur, que ce soit dans l'entracte, donc via cette BD, ou en conclusion du numéro 25-26, parce que le mot de la fin, finalement, c'est lui.
Wow, think I love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight. I love you.
Vous écoutez Nicolas Slenzik, auteur de Midi Minuit Fantastique l'intégrale, volume 4, paru chez Rouge Profond au micro de Culture Prohibée.
Je voulais en parler parce qu'il est relativement méconnu quand même, hein, par rapport à d'autres midi-minuistes. Un autre midi-minuiste, là, personnellement, j'ai eu la chance de le rencontrer, un homme d'une gentillesse incroyable, qui m'avait parlé de ce fameux numéro 25, je ne savais pas qu'il y avait un 25-26. C'est Jean-Claude Romer qui nous a aussi quittés, malheureusement, il y a peu de temps. Peux-tu nous raconter un peu, alors, il y avait eu aussi Michel Caen avant, tu l'as redit, mais peux-tu nous raconter un peu cette collaboration avec Jean-Claude Romer, cet homme facétieux, et puis ce qu'on découvre aussi dans le documentaire qui accompagne, ce qu'on savait aussi, puisque c'est Monsieur Cinéma, les fiches de Pierre Tchernia, voilà, cet homme méticuleux, ce chercheur qui voulait absolument toujours trouver des sources à tout ce qu'il disait, il ne voulait jamais inventer, mentir, ce qui a était l'occasion, ce qu'on voit dans le documentaire, hein, de difficultés relationnelles avec Jean Boulet dont on a déjà parlé dans l'émission, dont on a déjà parlé ensemble, qui est un grand précurseur, midi-minuiste, avant même l'existence de midi-minuit d'ailleurs, un type un peu dingue, mais qui était connu effectivement pour un peu inventer, raconter des films qu'il n'avait pas vus, ou tout du moins les sublimer à travers des instants poétiques et des scènes qui n'existaient pas forcément dans les films. Ce travail avec cet homme méticuleux qui était donc une encyclopédie vivante à lui tout seul, du cinéma et pas que fantastique d'ailleurs, comment ça s'est passé? Quels souvenirs tu en gardes?
Alors évidemment, évoquer Jean-Claude Romer, pour moi, c'est une grande émotion parce que le projet d'intégrale, on l'a lancé avec Michel Caen, c'est vrai, on était tous les deux sur ce projet-là, mais il était évident que Jean-Claude, qui est le cofondateur de Midi Minuit, le co-rédacteur en chef, c'est évident pour nous qu'il devait être impliqué depuis le début à cette intégrale, même si c'était un petit peu plus à distance au début, c'était évident qu'il devait être là avec nous, d'une manière ou d'une autre. Et je dois dire qu'il a toujours accompagné la chose avec enthousiasme, ça c'est une évidence, mais beaucoup plus important, quand Michel Caen nous a quittés en 2014, il a joué un vrai rôle pour moi de soutien moral, ça c'est une chose, et puis de soutien tout court, je veux dire, même dans le travail, alors pour des choses ponctuelles, moi j'avais énormément de plaisir à l'appeler régulièrement pour lui dire, voilà, pour telle ou telle filmographie, ce serait bien de rajouter la date de sortie française, ou la date de sortie, ou la salle de cinéma dans laquelle elle est passée en avant-première à tel endroit, voilà. Et donc je lui posais des codes un peu comme ça, pour pouvoir homogénéiser un certain nombre de choses, tout simplement, à l'échelle des volumes. Et Jean-Claude était toujours ravi de reconsulter ses documents, de reconsulter ses livres. Et à chaque fois, il retrouvait l'information, voilà. On ne pouvait jamais lui poser une colle à Jean-Claude Romer. Et ça a été un vrai ami ces dernières années, même si on se voyait peu, il sortait peu de chez lui. Il a été beaucoup plus impliqué à partir du volume 2 via l'Entracte, où il avait à cœur d'écrire un article spécialement pour l'Entracte. Ça a été sa rubrique « Vous avez dit bizarre ». Dans le premier article qu'il a fait dans le volume 2, il parlait de son travail d'archéologue à la recherche des films disparus. Dans le volume 3, il avait fait il avait reproduit une sorte de reportage photographique qu'il avait fait sur Jean Boulet se prenant pour le comte Zaroff dans cette ère de Sologne, notamment, ce qui était tout à fait rigolo parce que ça donnait lieu à un titre dont il avait le secret, La chasse du comte Jean Off. Évidemment, quand Jean Boulet n'était pas à Paris, il était off, voilà. Et dans le volume 4, donc ce sera son tout dernier article, il a écrit un papier sur Johnny Heck, l'une des stars de Freaks. Donc il a été très impliqué et je dois dire que quelques jours avant sa mort, je l'ai eu au téléphone. Je ne sais pas si j'ai eu une prémonition ou pas, mais on venait de faire la couverture du numéro 4. On venait de la choisir, de la réaliser, de retoucher la photo comme il me convenait pour qu'elle puisse être publiable. Et moi, je m'apprêtais à la rendre publique sur Facebook, les réseaux et tout ça, un petit peu en amont, pour faire monter un petit peu la sauce sur ce volume 4 qui allait sortir. Mais comme Jean-Claude n'avait pas d'accès à Internet, je me suis dit qu'il fallait tout de suite que je lui envoie par la poste. Je voulais qu'il la voie le plus rapidement possible. Je n'ai pas attendu. Donc je lui ai posté, et 4 jours avant sa mort, il est mort un vendredi, il m'a appelé le lundi qui précédait, donc, et il m'a fait part de son enthousiasme par rapport à cette couve. Il était très 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 heureux de notre choix, qu'il y ait de la nudité cette fois. Je lui avais expliqué qu'on ne pouvait pas surenchérir par rapport à la couve du numéro 1 où un loup-garou étranglait sa propre mère. On ne pouvait pas surenchérir avec la couve du numéro 2 où Barbara Steele maniait le rasoir. On ne pouvait pas surenchérir dans le blasphème par rapport à la couve du numéro 3 où Raquel Welch était crucifiée. Et donc, je m'étais dit, on peut s'autoriser un contre-pied et s'autoriser un moment de douceur. Et donc, ce couple de femmes vampires tiré de Jean Rollin, avec cette nudité bienvenue évoquant les années 70, ben voilà, c'était quelque chose dont il était très très heureux. Et l'un des derniers sujets de conversation qu'on a eu ce jour-là, eh bien c'était le numéro 25-26. Alors donc lui, il était très heureux de savoir finalement, on allait publier non pas le numéro 25, mais bel et bien ce numéro 25-26 qu'il allait découvrir. Je lui avais évidemment résumé tout le sommaire du numéro. Je lui avais même, je crois, envoyé une reproduction du sommaire. Et voilà, ça c'était la dernière chose qui le mobilisait entièrement, la joie de savoir que ce numéro 25-26 allait enfin sortir, que l'intégrale allait être enfin complète, et surtout qu'il y allait y avoir ce gros événement qui a eu lieu là tout au long du mois de décembre et de janvier, jusqu'à très récemment, cette rétrospective au Forum des Images accompagnée d'une exposition. Voilà, il se réjouissait totalement de cette renaissance totale du Midi Minuit.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net et la revue Prime Cut. Pour plus d'infos, rendez-vous sur theextasyoffilm.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Avec The Last But Not The Least, le concours de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.